Le journal en ligne Orient 21 lui dédie depuis le 28 février 2024 un espace où il relate par écrit et en langue française sa vie quotidienne.
Il a reçu pour ce journal transmis à Orient 21 deux récompenses au prix Bayeux pour les correspondants de guerre dans la catégorie presse écrite et prix Ouest France. Nous vous donnons lecture de son dernier message transmis à Orient 21 le 15 janvier 2026. Il est titré « Il coupe Gaza de son passé ».
Les habitants de Gaza ont découvert, via les médias, la composition du dit comité national palestinien qui va gérer la reconstruction de la bande de Gaza dans le cadre du plan décidé par Donald Trump. 12 hommes au profil apolitique, des professeurs d'université, des juristes, etc. Ils seront chapeautés par un comité exécutif de personnalités occidentales dont fait partie Jared Kushner, l'homme d'affaires américain et gendre du président des États-Unis. Ce dernier a récemment dévoilé un projet immobilier délirant pour Gaza, où les Palestiniens ne figurent pratiquement pas, preuve que le désir de son beau-père de transformer Gaza en Riviera n'a pas disparu. Le tout sera placé sous l'ombrelle du Conseil de la paix de Trump, qui veut remplacer l'ONU, avec notamment la présence de Benjamin Netanyahou, à la fois juge et bourreau. Autant dire que les Palestiniens ne fourniront au mieux qu'une façade au projet immobilier néocolonial israélo-américain. Le flou demeure sur les réelles prérogatives du comité. Dans tous les cas, elle ne devrait concerner que 40% du territoire de Gaza, les 60% restants étant annexés de facto derrière la ligne jaune installée par Israël, qui fait déjà figure de nouvelles frontières. On ne sait rien non plus sur les moyens dont ils disposeront. Il faudrait d'abord que les Israéliens donnent leur aval et les laissent entrer à Gaza, ce qui n'est toujours pas le cas au moment où j'écris. Mais ensuite, est-ce que chaque spécialiste sera à la tête d'un ministère? Auront-ils même des locaux dédiés? Vont-ils reprendre les ministères existants? Réintégrer les anciens fonctionnaires du gouvernement de l'autorité palestinienne, qui reçoivent toujours de Ramallah une partie de leur salaire. Employer les fonctionnaires du gouvernement du Hamas, qui, eux, touchent environ 50% de leur salaire tous les 40 jours. Embaucher de nouveaux personnels. De quel crédit disposeront-ils? Je crois qu'eux-mêmes n'en savent rien, ils attendent les ordres des Américains. Ce panel de technocrates a des liens distendus avec notre enclave. 8 sur 12 d'entre eux, s'ils sont originaires de Gaza, n'ont pas vécu la guerre. Et les chiffres qui circulent sur le montant de leur salaire annoncent la création d'une nouvelle classe privilégiée, un système éprouvé avec succès avec certains dirigeants de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Quel rapport ces hommes, étrangers à la bande de Gaza et sans doute payés comme des cadres supérieurs européens, pourraient-ils entretenir avec la population locale, affamée et démunie de tout? Par quel miracle ne seraient-ils pas tentés de tout accepter pour garder leurs avantages? Les habitants de Gaza savent très bien que le comité ne décidera de rien, que ce seront toujours les Israéliens qui détiendront les clés. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est une amélioration de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, la journée d'un Gazaoui consiste à se réveiller très tôt le matin, partir chercher du bois pour faire du feu, essayer de trouver un travail, faire la queue devant les citernes d'eau pour remplir un ou deux jerrycans, puis attendre de nouveau devant une tequilla, une soupe populaire où il peut espérer un plat de riz ou de lentilles, parfois des pâtes. Les Israéliens autorisent désormais l'importation d'aliments par des commerçants privés, mais tout est très cher et la plupart des Gazaouis n'ont plus un sou. Ils doivent se contenter de ce qui est gratuit. Nos espoirs se réduisent à attendre l'aide humanitaire, de la nourriture, des vêtements, des tentes, du matériel de construction, des abris, des préfabriqués et des médicaments. Seules les ONG internationales en distribuent et, comme on le sait, Israël va en expulser 37 de Palestine. Voilà nos attentes, la fin de l'humiliation, les bases de la survie. Des besoins de réfugiés, ce que nous sommes devenus sur notre propre terre. Les Gazaouis espèrent aussi pouvoir sortir temporairement de leur prison à ciel ouvert. En premier lieu les blessés, les personnes en attente d'une opération chirurgicale, ceux qui ont besoin d'une prothèse ou d'un scanner. Il n'y a plus que deux appareils pour 2,2 millions de personnes. Les enfants et les adultes atteints de maladies graves qui sont en train de mourir faute de soins. Ali Shaat, le président du comité, a annoncé la réouverture du terminal de Rafah, la frontière avec l'Égypte. Mais on ne sait rien sur les détails. Qui sera autorisé à sortir? Qui sera autorisé à rentrer? Faudra-t-il payer, comme au début de la guerre, 5 000 $, 4 300 euros, par personne à une agence de voyage égyptienne? Et surtout, qui contrôlera ce terminal? La réponse, ici, n'est pas trop difficile à deviner. La ville de Rafah est maintenant derrière la ligne jaune, c'est-à-dire en territoire israélien. Le comité national ne s'inscrit pas dans le système politique palestinien. Leur premier communiqué ne porte ni les symboles de l'OLP ni ceux de l'autorité palestinienne. Sur le nouveau logo, on voit un phénix aux couleurs du drapeau palestinien. Aucune référence à l'histoire de la Palestine. Les membres du comité se rendent-ils compte qu'ils coupent ainsi Gaza de son passé, de l'histoire de notre lutte? On peut penser qu'il aurait été plus simple de confier la gestion de Gaza à l'autorité palestinienne au lieu d'inventer des systèmes compliqués. Mais les Américains et les Israéliens préfèrent apparemment un projet totalement hors sol. Si ce projet échoue, les Palestiniens en feront porter la responsabilité à ces technocrates. Mais l'objectif stratégique ne change pas, la déportation de la population de Gaza. Récemment, l'ambassadeur des États-Unis en Israël a déclaré que le plan de l'émigration volontaire des Gazaouis était toujours à l'ordre du jour. Pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut que la vie à Gaza demeure une sorte d'enfer. Ainsi les habitants partiront. Le nettoyage ethnique a déjà commencé à bas bruit, avec des vols payants affrétés par d'obscures associations comme Almage d'Europe, à l'image de cet avion qui a atterri à Johannesburg en novembre 2025 avec 153 Gazaouis à bord, sans tampon de sortie sur leur passeport. Le gouvernement sud-africain, pris par surprise, a d'abord refusé l'entrée aux passagers, avant de les accepter pour des raisons humanitaires. Ces habitants ont choisi l'exil parce qu'il n'y a plus de vie à Gaza et plus d'avenir pour leurs enfants. D'autres suivront. Et ce n'est pas un comité impuissant qui les en empêchera. Désormais, les Palestiniens sont soumis à la seule loi internationale qui subsiste, la loi du plus fort.
C'était le journal de bord de Gaza de Rami Aboudjamou.
Il était intitulé « Il coupe Gaza de son passé ». Plus d'infos sur le site orient21.info. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site alternantefm.fr. Rubrique « Chronique ».
Vous pouvez aussi acheter son livre dans toutes les bonnes librairies françaises. Il est intitulé « Journal de bord de Gaza » et est publié par les éditions Libertalia.